Donc, on va ouvrir dans la parole de Dieu, en Proverbe, chapitre 24. Proverbe, chapitre 24. Je vais lire moi-même. Merci. Merci, Eric. Le dernier verset du chapitre. Ici, on est là. Voilà, je vais prier. Et puis après, on plonge dans la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Merci que tu nous as fait ta pensée disponible. Merci que nous sommes privilégiés de vivre dans des temps où la Bible est disponible en format papier, aussi bien sur électronique que tout autre format, mais on a la Bible dans nos mains. Et aussi, on a des gens qui nous ont conduits dans ta parole, qui nous ont enseigné dans ta grâce. Et on te remercie pour cela. Bénisse cet extrait de la parole. Donne-nous sagesse de ta parole. Parle à chacun de nous selon nos besoins. Pour ta gloire, au nom de Jésus, nous prions. Amen. J'ai dit aux gens dans la voiture que je vais prêcher un peu d'une façon pentecôtiste pour vous réveiller un peu. Je vais crier de temps en temps. Quelqu'un crie Alléluia. Vous vous réveillez un peu. Ah, comme ça, voilà. Ça va nous vivifier un peu, vivifier. Donc, en Proverbe chapitre 24, on va lire à partir du verset 30. Un jour, je suis passé près du champ d'un paresseux, près de la vigne d'un homme sans courage. En original, je crois, en hébreu, c'est sans...
Ça, c'est le français pour les enfants, si tu
veux. Oui, peut-être, merci. Dépourvu de sens, ça veut dire sans une pensée normale, sans sagesse. Il est insensé. Et voici, les épines y croissant partout, les ronces en couvrant la face et le mur de pierre étaient écroulés. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme une rôdeur et la disette comme un homme en armes. C'est mieux là, merci. Dans la parole de Dieu, le terrain agricole, ça parle du cœur de l'homme, ce qu'on reçoit dans le cœur pour grandir et pour produire fruits. Ça parle de la volonté de l'homme, parce que la pensée la volonté marchent ensemble. On reçoit dans la pensée, on étudie la parole, et puis après on prend une décision de mélanger la foi avec ce qu'on entend. On fait une décision de foi, de s'appuyer sur cette parole, de recevoir cette parole dans nos cœurs, de permettre que cette parole prenne des racines dans nos cœurs, et puis après ça va produire du fruit. Aussi, ça, le terrain agricole, dont l'Ecclésiaste, celui qui a écrit les proverbes, sûrement Salomon, dit, j'ai passé à côté de ce terrain de celui-là. Près du champ, donc un champ, le champ d'un paresseux. Donc le champ parle de recevoir dans nos cœurs et appliquer avec nos volontés la parole de Dieu. Et on a toujours cette motto au Zimbabwe dans nos églises là. En anglais, c'est orthodoxy produit orthopraxy. Orthodoxie, ça veut dire la bonne doctrine. Et orthopraxie, ça veut dire la pratique correcte. Ortho, ça veut dire correct. Doxa. Pas en allemand, pardon. En grec, ça parle de doctrine. Et orthopraxie, ça parle de pratique correcte dans nos vies. Donc, celui-là, c'est écrit qu'il est paresseux. On nous dit qu'il est paresseux. Paresseux, ça veut dire qu'il n'a pas aucun production spirituelle. Il peut faire beaucoup de choses dans la chair. Il peut faire des choses pour des choses sociaux, il peut aider les pauvres, il peut aider les orphelinats, il peut faire plein de choses. Mais Dieu dit, ce que tu fais sans moi, et ce que tu fais pour ta gloire, ta propre gloire, et par ta nature humaine, par ta moralité, qui n'est pas motivée par mon esprit, qui n'est pas motivée par mon amour, qui n'est pas motivée par ma parole, tout ce que tu fais, ça ne compte pas. Donc Dieu dit, tu es paresseux. Et celui-là, quand Salomon regarde, il voit qu'il est paresseux. Ici, il fait une application spirituelle. Il voit que dans sa vie, Ces gens, ils n'ont pas une production spirituelle. Une fois, on a rencontré un catholique, une sœur catholique, qui était à la monastère. Comment s'appelle ça? Nun, en anglais. Moine.
Une sœur,
on va dire. Une sœur. Et on l'a évangélisé, qu'elle a entendu que le salut est gratuit. Elle a dit, non, attendez un peu. Moi, je travaille depuis 20 ans pour mon salut à la monastère. Et vous venez de me dire que c'est gratuit. Non, je n'accepte pas ça. Moi, j'ai travaillé depuis 20 ans. Et Dieu dit, t'es paresseux. Toutes tes œuvres ne comptent pas. Zéro. On a aussi un soi-disant prophète au Zimbabwe qui a 40 000 personnes dans son église. Et récemment, il a dit, j'ai vu la vidéo, il a dit, si quelqu'un va au paradis, c'est moi, j'ai fait beaucoup de choses pour le Seigneur. Orphelinat, construit le grand bâtiment, prêche soi-disant l'évangile sur la télé, mais n'entend pas le message de la grâce et le message de salut en Christ. On entend les œuvres, la culpabilité et l'évangile de la prospérité. Et Dieu dit, paresseux, tout ce que tu fais, ça compte zéro, zéro. Et dans le verset 30, il dit que j'ai passé à côté, près du champ d'un paresseux. Et il dit, et j'ai regardé bien attentivement, verset 32, et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. J'ai tiré instruction, je ne l'ai pas jugé. Il y a des gens qui disent que si vous parlez comme ça de d'autres gens, ce qu'ils font, bah, vous les jugez. Mais non, on tire instruction, il dit ici. Qu'est-ce que ça veut dire juger? Juger, ça veut dire proclamer une sentence sur quelqu'un, prendre des pierres et appliquer la sentence. Et on voit dans la Bible plusieurs fois, Paul dit, Dimas m'a abandonné. Il n'a pas jugé, il constate. C'est triste, Dimas m'a quitté. Il a été en prison avec Paul, un Timothée. Et puis on voit... 2 Timothée 4, 10, un des plus tristes versets que je pense, Dimas a quitté Paul. Imaginez-vous, il a été en prison, au bout d'une période, il s'est dit, c'est trop dur la vie, ce qu'on a ici, persécution, on manque de ça, on manque de l'autre. Je suis avec le grand, soi-disant, apôtre Paul, mais où est la gloire de son apostolat? Pourquoi on est toujours persécuté? Pourquoi on est toujours battu? Pourquoi on est toujours placé en prison? Il s'est fatigué, il n'a plus vu la main de Dieu. Et il faisait peut-être les œuvres dans la chair, l'œuvre missionnaire dans la chair. Et Dieu a dit, si tu fais dans la chair, c'est zéro, tu auras aucun fruit dans ta vie. Tu auras des thorns and thistles, attends, verset 30. Les épines et les ronces. Les épines et les ronces. C'est quoi les épines et les ronces? Ça parle de la malédiction. C'est dans le livre de Genèse, après la chute d'Adam et Ève, que la terre a été maudite par Dieu, à cause d'Adam et Ève, bien sûr. Et maintenant, qu'est-ce qu'il produisait? Qu'est-ce qu'il produit la terre si elle n'est pas ouvrée correctement, si elle est laissée d'elle-même? Elle produit des épines et des rondes, si je prononce bien. Oui. Et c'est ça qu'il voit dans le terrain de cette personne. Le résultat de la malédiction. Ces herbes, parfois, elles ont de belles fleurs. Vous avez vu des épines. Les épines et les rondes. Les herbes, mauvaises herbes. Les épines, les rondes, c'est écrit. Est-ce que vous utilisez le mot ronde? Ronde. Ronce. Ah, ok, pardon. Ronce. Les ronces. Parfois, elles ont de belles fleurs. Mais il n'y a aucun bénéfice. Tu essaies de les cuire, tu auras des épines dans les doigts. Et il n'y a aucune utilisation pour ça. Bon, peut-être un peu des choses médicaux et tout ça, je ne sais pas. On n'y va là, pas là. Mais c'est le résultat de la malédiction. Et il dit là, en verset 30, qu'il est dépourvu de bon sens. Il n'a pas la pensée du Christ. 1 Corinthiens chapitre 2, il dit, mais nous avons la pensée du Christ. Lui, celui-là, il n'a pas la pensée du Christ. Et le résultat, c'est qu'il est paresseux. Et le résultat de la paresse, c'est qu'il ne pense pas avec Dieu. Il n'est sûrement pas sauvé, mais bien sûr, un chrétien peut être dans la même situation. Et dans sa vie, il y a le résultat de la malédiction, les épines. Et bien sûr, il y a des domaines aussi dans nos vies où on a des épines. Sans condamnation, mais on va voir, Dieu a une solution pour nous aider. On continue ici. Bien sûr, il dit, il a des épines et des ronces dans sa vie. Et bien sûr, qu'est-ce que tu aimerais voir sur son terrain? Mais tu aimerais voir des fruits, des arbres avec des fruits. Tu aimerais voir des légumes. Tu aimerais voir quelque chose qui nourrisse. Et dans dans la vie du chrétien qui marche avec Dieu sur son terrain, les épines et les ronces sont arrachées par le Saint-Esprit et il place en nous un Galate 5, verset 20, n'est-ce pas? Le fruit du Saint-Esprit. Les neuf fruits du Saint-Esprit, il y a l'amour. Jésus est passé une fois à côté d'un figuier et c'était le temps des petits figuiers qui sont quand même, qu'on peut manger, mais il n'y en avait pas, rien du tout. Il a maudit cet arbre. Et Dieu désire à placer dans le chrétien des fruits, les fruits du Saint-Esprit. C'est les fruits du Saint-Esprit, attention, ce n'est pas nos fruits. Si nous ne travaillons pas la notre terre, automatiquement, des épines et des ronces vont pousser à cause de la malédiction. Parce qu'on a une chair, on est né avec une chair, la chair d'Adam, et elle ne peut pas produire que des épines et des ronces. C'est naturel. Il n'y a pas besoin de faire un effort pour produire ça. Mais le Saint-Esprit propose à chaque chrétien. Jésus dit en Apocalypse 3:20, je frappe à la porte, j'aimerais manger, avoir communion avec toi. J'aimerais arracher ton terrain et j'aimerais par mon esprit produire des fruits dans ta vie. Est-ce que tu es disponible? Le message de la loi, c'est il faut que tu aimes, il faut que tu arraches les épines. Il faut que tu changes. Il faut que tu suives Christ. Je n'ai pas la capacité. Romains 8, Paul dit, et aussi Romains 7, il dit, il y a en moi la chair qui pense et qui désire contre le Saint-Esprit et je n'ai aucune capacité contre la chair. Qui va m'aider contre ce corps de mort? Gloire à Christ. C'est lui qui, à la croix, nous a donné la victoire, a été crucifié à notre place, notre chair a été crucifiée et ma solution, ce n'est pas de crucifier ma chair, c'est d'accepter qu'elle a été crucifiée. Jésus l'a crucifié. Je vais réussir à mettre des clous dans une main, mais je ne peux pas dans l'autre et dans les pieds, parce qu'une main est déjà bloquée. Moi, je ne peux pas me crucifier moi-même. Et vous savez, dans l'histoire du christianisme, 2000 ans du christianisme, il y a plein de moines, je crois, n'est-ce pas? Des moines qui sont moines. Des moines qui se sont fait crucifier par des autres pour dire que voilà, je souffre comme Christ. On n'est pas appelé à être crucifié comme ça par les êtres humains. Dieu nous a crucifiés à la croix il y a 2000 ans en arrière. Et on accepte qu'on a été crucifié avec Christ. On accepte par la foi. C'est une décision de foi. Galates 2:20, Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ et je ne vis plus. Et je, moment par moment, chaque moment, je prends une décision, je ne vis plus. Ma vie n'est pas à moi. Christ vit en moi. Et quand j'accepte par la foi que j'ai été crucifié avec Christ, la victoire est là. Un instant. Pas besoin de jeûner un mois, pas besoin de sur le genou entourer une église catholique ou orthodoxe. En Roumanie, on fait ça beaucoup. On va autour de l'église 3-4 fois comme pénitence pour nos péchés. Si on fait ça, on est une affronte à le sacrifice de Jésus-Christ. C'est comme s'il lui dit, ta croix n'est pas suffisante, il faut que moi je rajoute quelque chose à ta croix. Il n'a rien à rajouter à sa croix. Et sa croix, c'est le secret. Après, il dit là que le mur de pierre est tombé. C'est quoi un mur? C'est une protection. Un mur autour d'un terrain agricole offre une protection pour garder ce qu'il y a à l'intérieur, que ça reste à l'intérieur. Et ce qui est à l'extérieur, que ça reste à l'extérieur. C'est ça le but d'un mur. Et le mur de pierre, il a observé ce... L'Ecclésiaste l'a observé, le mur de pierre était tout tombé. Ça veut dire qu'il n'y a plus de protection. Il y a les chèvres qui entrent, il y a les moutons qui arrachent, s'il y a le peu de fruits qui est là, qui arrachent tout, qui détruisent tout. Et ça veut dire quoi, un mur en pierre? Un mur en pierre, ça parle de doctrine. Qu'on reçoit les doctrines de la parole de Dieu et nous construisons autour de nous un mur qui nous protège. Je donne quelques exemples. La purité, c'est une des pierres dans les murs. Ce n'est pas ma purité, c'est la purité du Christ qui a été mise dans mon compte quand Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Et la pureté. J'ai dit purité. Pureté. La pureté. Pureté. Parce que j'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur, il m'a donné la doctrine de la pureté. Si moi, je laisse cette pierre tomber, le diable veut la pousser, la fait tomber, et puis il me jette des flèches à travers l'endroit où il y avait cette doctrine. Il dit, t'es impur, il faut faire quelque chose pour te sanctifier. Et beaucoup de gens en Roumanie, par exemple, pour se sanctifier, ils vont à l'église, ils prennent de l'eau sanctifiée. Il y en a qui font des œuvres pour se sanctifier. Mais non, on reçoit la déclaration de Christ que nous sommes sanctifiés. 1 Corinthiens 1:30, Christ est notre sanctification. Et là, j'ai la doctrine, le pied de la sanctification sur mon mur et les flèches, l'accusation que je suis impur ne peut pas me toucher. La doctrine de la rédemption, elle est là, Saint-Pierre. Le diable veut la faire tomber et te dire, ah, tu dois te racheter toi-même. Et tire les flèches par le trou où cette pierre de la rédemption était. La Bible, le corps du Christ, la communion fraternelle, le fait qu'on est placé dans les lieux célestes. Il y a toutes ces doctrines de la Bible sont des pierres dans nos murs. C'est des pierres qui nous protègent. Passer du temps avec les sages, c'est une autre pierre dans les murs. Le diable veut l'enlever et que je passe du temps avec les insensés. Ben, je vais devenir comme eux. Donc ce mur, c'est Dieu qui le construit. C'est ça le miracle de la vie chrétienne. C'est Dieu qui nous propose ces pierres. Et en Éphésiens, chapitre 3 ou 4, c'est écrit que le corps du Christ est édifié dans l'amour. Et ton mur aussi est édifié dans l'amour. C'est l'amour de Dieu qui tient toutes ces doctrines ensemble. Si je n'ai pas l'amour de Dieu, si je n'ai pas communié avec le mur de Dieu, j'ai une multitude de pierres qui sont tombées par terre et qui ne peuvent pas m'aider. Les pharisiens étaient ça. Ils n'avaient pas l'amour de Dieu, ils n'étaient pas sauvés. Ils avaient plein de doctrines, plein de connaissances intellectuelles, mais pas, ils n'ont pas reçu l'amour de Dieu qui lie toutes ces pierres ensemble pour faire un mur. Donc ça, c'est le travail de Dieu. Les pierres parlent de quelque chose que nous, on ne peut pas fabriquer. Les pierres, c'est Dieu qui les a fabriquées. Bon, on peut les tailler, mais ils sont fabriqués par Dieu. Le monde offre des briques. Oh, les pierres, non, les briques. Et Dieu dit non, c'est les pierres. On est des pierres vivantes dans le corps du Christ, notre application. Mais les doctrines, les pierres, elles viennent de Dieu. Il n'y a pas une intervention humaine que de les tailler et que de les arranger par la foi. Les arranger dans la place où Dieu nous conduit par son amour. Mais on n'est pas à construire avec des briques. Et ce que fait tomber notre mur, c'est le monde, la chair et les démons. Très court, comment on voit le mur qui est détruit. Le monde, bien comme j'ai mentionné, il méprise les pierres que Dieu propose et veut les remplacer avec des briques. Et beaucoup des églises aujourd'hui, ils ont des briques dans leurs murs. Et ça ne marche pas. Dieu n'accepte pas ça. L'amour de Dieu ne peut pas relier ensemble les briques et les pierres. La chair ne peut pas communier avec l'amour de Dieu. Et ça veut dire que l'amour ne peut pas tenir ensemble ces pierres pour être un mur. L'homme naturel ne peut pas recevoir l'amour de Dieu. Au moins qu'il reçoit le salut. S'il reçoit le salut à la croix, mais il ne peut pas communier avec l'amour de Dieu d'une façon constamment. Il doit recevoir Christ d'abord comme son sauveur et puis après il a communion avec l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu va mettre ses pierres ensemble pour construire son mur. Les démons viennent avec des fausses doctrines. Deux Timothée chapitre 4 et 1 Timothée chapitre 4 parlent des fausses doctrines dans les derniers temps. Et on voit ça très, très souvent aujourd'hui dans le christianisme, des fausses doctrines. Donc, le monde, le diable et la chair vont détruire le mur. Et quand on a communion avec l'amour de Dieu nous montre où on manque des pierres. Parfois, on n'est pas mûr et on n'a pas de pierres dans certaines doctrines. Et Dieu, dans sa grâce, il nous couvre. Ce que Pastor Stevens appelait ça, points of aveuglement, des points d'aveuglement. Ça veut dire que tu réalises pas qu'il y a un trou dans ton mur. Et Dieu dit, je ne vais pas lui montrer encore. Il n'a pas la capacité. Au bon moment, je vais lui montrer. Par exemple, mon fils, il n'a pas dans son mur servir avec son papa à faire la vaisselle, par exemple. Ça fait partie de le discipulat et du service chrétien. Il n'a pas ça dans son mur, mais il est petit. Et Dieu le protège dans sa grâce. Le diable ne peut pas jeter cette accusation parce qu'il ne la reçoit pas. Il n'a pas une capacité de comprendre ça. Mais il continue ici, verset 33. Au 32, il dit, j'ai pris des enseignements quand j'ai regardé ce monsieur. On prend des leçons spirituelles quand on voit les fourmis. Dans les proverbes, c'est écrit, regarde les fourmis comme elles travaillent. Jésus avait dit, regarde le moisson, il est prêt. Matthieu 11, 28, Jésus a dit, venez et apprenez de moi. Venez. Donc, ce n'est pas pour condamner, et ce n'est pas pour se condamner soi-même, dans ce passage, mais pour réaliser, j'ai un manque, Seigneur, aide-moi. J'ai une partie de mon mur est cassée. Je n'ai pas, par exemple, la parole de Dieu dit d'évangéliser, par exemple. Et ce n'est pas que maintenant, dans ma chair, je vais commencer à évangéliser parce que la Bible dit qu'il faut évangéliser. Non, j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Seigneur, je n'ai pas la capacité d'évangéliser. Je n'aime pas, je suis timide, et je ne sais pas comment faire et j'ai peur déjà. Et j'ai dit, Seigneur, je suis mort avec toi à la croix et je ne vis plus. Ok, allez, c'est toi qui viens à moi, toi, utilise ma bouche. Et c'est ça le secret pour recevoir le pire de l'évangélisation. Et puis, verset 33, il dit que ce monsieur, il dort. Et il n'a pas du repos spirituel. Ça, ce n'est pas du repos spirituel, ça, c'est le repos de la chair. Rappelez-vous, Samson a été mis au sommeil par Dalila et Dalila lui a détruit son mur. Sa protection était partie parce qu'il s'est donné au sommeil de la chair. Dieu nous donne le sommeil spirituel. Rappelez-vous, dormir, Christ a dormi dans le bateau. Mais il a dormi parce qu'il avait besoin, bien sûr, physiquement comme nous tous on dort. Et lui a dormi dans le repos que mon Père Céleste il est en contrôle. Oui, mais comment tu peux te coucher dans un bateau? C'est risqué. Oui, mais je suis dans la main de mon Père Céleste. Donc, j'ai dans mon mur la doctrine de l'amour de mon Père Céleste. Je suis dans ses mains et personne ne peut m'arriver. Rien ne peut m'arriver sans sa volonté. Tu n'as aucun pouvoir sur moi, Jésus a dit à Hérode. Si, ça ne venait pas d'en haut. Donc, son mur était fort et ne pouvait pas être attaqué. Et ce monsieur, il dort. Et Paul dit, soyons pas endormis dans la journée. Ça veut dire, c'est la journée. C'est le temps d'être actif avec Christ, de permettre à Christ d'être actif à travers nous. Permettre à Christ de travailler à travers nous. Et verset 34, la pauvreté spirituelle vient sur ce frère. Il n'y a pas de fruits spirituels. Le psaume 1:3 dit que le chrétien qui marche avec Dieu, il est comme un arbre à côté des eaux qui a du fruit en tout temps. Et Cantique des Cantiques, chapitre 4, les derniers versets, l'Ecclésiaste dit, le vent du nord vient et frappe sur mon jardin pour faire sortir des parfums. Le vent du nord, ça parle du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit amène des persécutions parfois sur notre jardin pour prouver que le mur ne tombe pas, parce que l'amour de Dieu, on est baigné dans l'amour de Dieu, et l'amour de Dieu garde notre mur et garde les ennemis dehors, et garde aussi nos choses à l'intérieur, notre vie spirituelle, nos décisions avec Christ restent à l'intérieur, ne sont pas arrachées et enlevées par le diable. Et le Saint-Esprit vient et frappe sur le jardin pour apporter du parfum tout autour. Et quand le chrétien traverse des persécutions, des épreuves, le parfum de Christ sort de son jardin et les gens regardent et les gens voient dans son jardin du fruit disponible. On a un frère dans l'église, celui qui est mon assistant, l'église qu'on vient de finir, on a laissé ce frère continuer l'église à Moutaré et on a aménagé sur Harare. Ce frère, il y a quelques années en arrière, je l'ai vu à l'église à Harare, il avait une brûlure sur son bras. Je dis, qu'est-ce que s'est passé? Il a dit, tu sais, pasteur, quand je tourne la polenta saute. Et c'est comme ça que je suis brûlé. Et je me suis dit, ce frère, il est baigné dans l'amour du Christ. Il a le pierre du service dans son mur. Il sert sa femme. Parce que dans la culture du Zimbabwe, l'homme ne fait jamais la polenta. Ou même la nourriture. Il ne cuisine pas. Et lui, il sert sa femme. Il est un serviteur. Parce qu'il permet au Saint-Esprit de porter du fruit dans son jardin. Le Saint-Esprit veut amener des épreuves pour prouver ce qu'il y a dans sa vie. Quand on a des épreuves dans nos vies, on sait, c'est le Saint-Esprit qui permet ça, pour révéler au monde qu'on a le fruit du Saint-Esprit dans nos vies. Donc, pour finir, il y a un des proverbes qui dit, dans le jour de difficulté, je ne sais pas comment c'est en anglais, en français, in the day of trouble, you are weak if you lack strength. Voilà. Donc, si tu manques la protection du Saint-Esprit à travers les doctrines dans ton mur, si tu manques l'amour de Dieu qui tient ces doctrines liées ensemble, le jour de l'épreuve, ces pierres peuvent tomber et on manque de capacités et on tombe. Mais Christ est toujours fidèle à venir nous chercher dans le plus bas où on tombe. Il nous soulève. Deutéronome, est-ce que c'est 35 qui dit « Sous nous, il y a les mains éternelles de Dieu ». C'est 35 ? 33. En dessous de nous, il y a les mains éternelles de Dieu. Dieu nous garde. On ne tombe pas dans les épines et dans la malédiction. Nous sommes les enfants de Dieu et c'est son désir et sa joie de nous fortifier, de bâtir avec nous nos murs, nous édifier spirituellement et qu'on a ces murs de protection autour de nous. Et que dans notre jardin, il y a le fruit du Saint-Esprit, les arbres qui nourrissent, les gens autour de nous qui, quand ils méritent condamnation, ils reçoivent grâce. Quand ils méritent être punis ou ignorés, ils sont suivis par amour et ils sont portés par ces chrétiens. Quand ils ne sont pas aimables, ce chrétien aime à cause de Christ. Et c'est ça l'extrait de la parole que j'aimerais partager avec vous. On va finir par prier. Et puis après, s'il y a des questions, on a encore du temps, on est là. Notre Père Céleste, nous te remercions pour ce extrait de la parole de Dieu. De ta parole, bien sûr. Nous te remercions que la richesse de la parole nous porte, la richesse de la parole nous édifie, nous corrige, nous bâtit, nous entoure, nous porte, nous nourrit et nourrit d'autres gens autour de nous. Merci que tu nous as appelés à être le fruit, l'arbre qui porte des fruits en tout temps, dans un jardin entouré par des murs de doctrine, édifié dans l'amour de Christ et aussi entouré par le feu du Saint-Esprit tout autour. Merci que nous sommes ton édifice, que c'est toi qui bâtis nos vies avec nous, avec notre accept, avec notre participation, mais c'est ton œuvre, c'est ton travail. Il n'y a aucune possibilité de se vanter, de se glorifier soi-même, parce que c'est ton œuvre. Nous te remercions et montre-nous les zones, les domaines dans nos vies, les petites portions de terrain dans nos vies où on a des épines et des ronces. Et donne nous sagesse à recevoir ta capacité, ta grâce, ton amour pour arracher avec toi, avec ta parole, avec ton Saint-Esprit, arracher ces zones et semer ta pensée, semer ta parole, semer les fruits de ton esprit pour ta gloire, pour que tu sois en nous tout, que tu sois glorifié, que tu sois élevé, parce que c'est ton œuvre. Parce que nous sommes ton chef d'œuvre, nous sommes ton le plus haut œuvre de la création, par les anges, par les cherubims, séraphims, mais c'est nous lavés en ton sang et transformés de gloire en gloire selon ton image à Christ. Et Christ, nous te remercions que bientôt tu vas venir nous prendre avec toi sur les nuages, dans l'air, tu vas nous enlever de ce monde et même les autres chrétiens et les anges vont regarder avec choc en nous, te voir repliquer ou copier en nous. Voir ton caractère, ta nature, transférer à nous ta beauté, tes degrés de gloire, transférer à nous et qu'on va briller comme les étoiles, comme Daniel 12:3 le dit. Te remercions, Seigneur, que c'est ton œuvre. Il n'y a pas de transpiration humaine, il n'y a pas d'effort humain de Adam, mais c'est l'homme nouveau que tu as placé et que tu as donné vie à nous, que tu as donné la vie à un nouvel homme à nous, la nouvelle création. Et c'est ton œuvre. Te remercions, Jésus-Christ. En ton nom précieux. Amen.